Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Après des mois d'entraînement, voici à un mois et une semaine du décollage. Vous prenez place dans un avion qui vous emmène à Miami. Vous serez bientôt mis en quarantaine. Pendant un mois entier, vous allez être en quarantaine dans une villa de luxe quand même. Ah. Où il y aura un petit parloir aussi pour voir votre famille, vos amis, sauf pour toi qui n'as personne. Et une voiture effectivement vous dépose devant Super. Cette maison fantastique. C'est la dernière soirée dans le monde des humains et la société avant la quarantaine. Donc, vous avez une dernière une soirée à passer et vous pouvez décider de faire quelque chose en particulier. Sinon, j'ai des amis qui vont vous appeler. Est-ce que vous voulez un appel d'un ami ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ?
J'ai enregistré un petit vlog dans la villa quand même.
Vas-y, bah oui, fais ton vlog.
Il a 10 millions. Ce serait dommage.
Salut les amis !
Ouais.
Salut les amis, on est en direct de la quarantaine. On va s'isoler un petit peu avant de partir dans l'espace. On pense fort à vous. Envoyez-nous des messages pour nous donner de la force. Et puis nous, on va faire une belle soirée hein, pour réaliser tout ça.
Un gros
on va
stade.
Boire, Merci. Mais pas d'alcool. Hein.
Très bien.
Alors, est-ce que vous voulez qu'un ami vous appelle ?
Ouais.
Allez, ouais.
Oui.
Ouais. Oui.
Alors, on va les faire de gauche à droite. Tu as un ami astrophysicien qui s'appelle Poncho.
Voilà, Poncho, oui, j'étais sur l'observatoire européen au Chili, là, dans l'Atacama avec lui.
Très bien, ben voilà, Poncho, il te dit, je sais que tu es à Miami, si tu n'as rien à faire, je te propose de boire un dernier verre dans un bar très tranquille qui s'appelle l'Agnap. Est-ce que tu acceptes ?
Oui.
Tu pars à l'Agnap. Alors, il y a quand même les référents, les gens. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Mr. Sora qui dit « Est-ce que vous allez ? Je vais à l'Agnap. Pas de problème, vous pouvez y aller. » Voilà. Toi, c'est un peu moins rigolo, Eugénie, parce que tu reçois un DM Twitter qui te semble un petit peu agressif.
C'est déjà moins drôle, de base.
Aïe, aïe, aïe.
Qui te provoque un peu. J'ai vu que tu t'es géolocalisé à Miami, Tocard. Es-tu vraiment la reine des robots, comme tu le dis sur ton blog ? Si tu veux me le prouver, rendez-vous à la New Florida Bakery.
Monsieur. Ah oui, genre ça provoque hier.
Ouais. Attends, mais
rendez-vous à Répu 14h.
C'est ça.
Il me propose un 1v1 Gare du Nord ou comment ça se passe ?
Bah, il te dit exactement ça, le PM. Donc tu dis quoi ?
Mais je dis c'est qui ?
Tu sais pas, c'est un compte avec un 9, tu vois.
Ah ouais, c'est un compte avec un 9 ?
Ouais.
Vas-y, j'y vais.
D'accord.
Tu vas voir une PPF. C'est de la folie.
Tu reçois une invitation par SMS d'un mec qui s'appelle Nexus. Alors Nexus, tu sais pas qui c'est, mais on est dans le futur. C'est un méga influenceur de ouf. Genre ouais. Squeezie est tout petit à côté. Il était tellement un grand influenceur qu'il a commencé à faire de la musique. Il s'est installé à Miami. Il vit. C'est le nouveau Pitbull. Tu vois, c'est incroyable. Il te dit, mais viens mec, j'ai un appart de ouf à Miami. Tu viens ou pas ?
Ah oui, j'y vais. Ouais.
Ok, c'est parti.
Comment résisterait-il ?
Et enfin, toi, comme tu es un mondain, tu as la chaîne CBS qui dit, ça vous dirait de passer dans notre talk show ce soir ? Vous nous parlez de la Lune, tout ça ?
Le traquenard. Ah, pour CBS, bien sûr.
Très bien. Donc ça va être dans des rythmes différents. Toi, donc, tu as Mr. Sora qui est ton référent slash garde du corps qui dit vous allez où ?
Je vais où déjà ?
À la New Florida Bakery.
Ouais, je vais à la New Florida Bakery.
Alors il vérifie, il dit attends, c'est dans un quartier qui s'appelle la Petite Haïti, c'est dangereux. Je te conseille de ne pas y aller la veille de partir sur la Lune après ton entraînement.
Tu penses qu'il peut m'arriver quelque chose de mal ?
Bah, c'est un quartier qui n'est pas très bien famé de Miami, c'est tout.
Je peux changer le lieu du rendez-vous ?
Tu essayes, tu dis quoi ?
Je voudrais l'emmener à un endroit où il y a du monde.
Donc tu lui proposes quoi ?
Je lui propose par exemple ce restaurant.
L'Agnap,
c'est ça. Je
Alors,
aller là.
Il te répond dégonflé. Et point. Est-ce que tu fais quelque
Écoute,
chose ?
Écoute, loser.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas
je
ou pas?
Je cherche son adresse IP.
D'accord. Tu veux savoir qui c'est?
Ouais. Ah bah oui.
Vas-y, envoie, fais un jet de connaissances techniques.
Ton truc, ça.
45. Alors,
tu fais la hackeuse, tu recherches.
Elle est très forte en connaissances techniques.
Et en fait, tu t'aperçois qu'il s'appelle Yang Wenli. C'est un chinois. C'est aussi un pseudo. Hein. Yang Wenli. Et en fait, c'est un très grand créateur de robots qui fait des battles de robots, qui est très connu. Et il a le robot le plus puissant du marché qui s'appelle l'épée brisée, ouais. Qui est un robot qui peut tout casser. Et il t'a souvent défié, tu vois, mais toi, tu n'as jamais eu vraiment l'occasion de le rencontrer.
Génial.
Est-ce que tu as envie de faire un duel de robots avec lui?
Ouais.
Donc, mais Mister Sora dit, je ne veux pas que tu ailles à la New Florida Bakery.
Tu fais quoi? Petit bodyguard.
Bah, viens avec moi.
Ah non, mais on ne va pas y aller. Moi, bon, en plus, je dois garder la maison. Alors, eux, ils peuvent utiliser CBS, son ami, et pourquoi pas le bar, mais... Donc, je vous interdis formellement, Eugénie, d'aller...
Je fais ce que je veux, je suis une grande fille, j'ai 34 ans.
Mais mon copain astrophysicien, c'est un super baraqué, on l'accompagne. Ah. On va prendre le pot.
Ah non, mais toi, tu es déjà parti. Alors, comment tu gères avec Mister Sora? Bon, je te laisse réfléchir, ok?
Ouais.
Réfléchis bien. On arrive à CBS, j'arrive, attendez une seconde.
Direct.
Alors, tu arrives au studio, donc c'est un studio où il y a beaucoup d'agitation.
Ah, bien sûr.
Et tu rencontres une certaine Junko, mais... Alors, Junko, c'est une ancienne conquête à toi, qui maintenant, ça fait appeler Beignet. Donc, c'était une jeune actrice à l'époque. Aujourd'hui, elle a eu beaucoup d'opérations esthétiques là où il faut.
Ah.
Et elle a un cortège de fans. Et elle est absolument fan de toi, elle se jette à ton cou. Elle te dit oh, mais tu m'as tellement manqué, Patoche.
Ah, gros beignet, comment ça va? Oh là, comment ça, mon bon beignet?
Mais tous ces souvenirs qui reviennent.
Bien sûr.
J'ai appris que tu venais, t'étais interviewé ce soir. Je peux venir avec toi dans le studio?
Comment ça? Mais pourquoi?
Alors, les gens prennent des photos de toi et beignet.
Beignet, non, s'il te plaît, là, je pars demain. Je n'ai pas envie d'avoir du quiproquo ou des news people.
Non, mais il n'y a pas de.
Tu sais quoi?
Je suis une actrice désormais. Je suis une actrice, je suis en politique, ne me juge pas sur mon apparence.
Non, mais j'ai bien compris, c'est la tomate oignon, tu fais la totale, mais là, je suis... Voilà, ça va être une interview.
Non, mais je suis dans les coulisses.
Oui, mais si tu veux être dans les coulisses, d'accord, oui, mais...
Donc, tu rentres dans les coulisses avec Beignet.
Non, mais Beignet... Mais pourquoi tu... Elle est là pour quoi, en fait?
Bon, je te laisse réfléchir à ça. Tu arrives dans un immense... Alors, c'est un immense immeuble qui donne sur la grande plage de Miami... Il y a des gardes du corps qui disent « Mais tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. » Nexus est là. Donc Nexus, il a un gros manteau en fourrure, des grosses chaînes. Il dit « Tu veux de la cocaïne ?»
Tout ça. Il pourrait dire « Bonsoir » quand même. Avant.
Bonsoir, Nexus.
Mais ça va, c'est bon, allez.
Écoute, allez, YOLO, j'ai 23 ans.
Tu prends de la cocaïne?
Mais quoi?
Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, avant le vol?
D'accord, ok. Tu prends de la cocaïne, très bien. Alors, tu vas faire... Alors, sache que... La première prise d'heure, je le dis, ne prenez pas de cocaïne les enfants.
Déjà.
La première prise de cocaïne mène souvent à des infarctus. D'accord? Donc tu vas me faire un jet sous ton endurance divisé par deux.
Et mène aussi à une disqualification pour le vol spatial.
Bah, c'est ça.
Bah oui.
C'est comment ils passent le test sanguin. Bon, tu pourras venir me voir, j'ai quelques astuces.
Il n'est pas trop tard. Hein. Donc,
j'ai un moment de doute quand même. Au moment où il faut prendre la cocaïne, j'ai une espèce de flash et je me dis... Bon, Est-ce que vraiment je dois le faire? C'est vrai que c'est peut-être ma dernière soirée sur Terre au final. Parce que,
voilà. Tu risques de mourir et surtout d'être disqualifié pour le vol spatial.
Ta dernière soirée tout court.
Je me dis que. Est-ce qu'il ne peut pas m'en garder un petit peu et je l'emporte avec moi là-haut si jamais dans mes affaires personnelles? Si jamais une fois passé
une idée
le contrôle,
encore plus brillante.
Est-ce qu'on peut faire un truc? Je viens de sortir mon dernier CD. Il s'appelle Le 7ème Ciel. Alors il te montre la couve, c'est lui, il est entouré de tas de meufs.
Ouais.
Et il dit je voudrais que mon CD soit le premier CD sur la surface de la Lune.
Moi, je fais deal, OK.
Allez, c'est parti.
Il n'y a pas de souci.
Ça marche. Toi, tu vas arriver dans ce bar charmant qui s'appelle La Niappe, où se trouve Poncho. Et Poncho, il te voit, il dit « Oh, ça va !» Alors, tu pars sur la ligne, c'est extraordinaire. Bon, on peut parler des vrais trucs. La dernière saison de Star Trek, elle est bien ou pas, la Discovery?
Ah, extra.
C'est vrai?
Ah, ouais.
Moi, je préfère Star Trek Classics.
Oui, mais je suis un grand fan de l'original, la vraie originale.
Oui, moi aussi.
Mais d'ailleurs, hein, je suis membre de Starfleet. Hein, ah, ouais. Voilà. Mais la dernière, je trouve qu'il y a plein d'idées originales. Il y a plein de... Le scénario est assez alambiqué. Mais
c'est un peu bellicite vraiment... aussi, c'est un peu la guerre.
Oui, c'est ça qui est un peu décevant. Parce que Star Wars, comme le dit le titre, c'est l'histoire de guerre. Alors que Star Trek, la mission, c'est pacifier la galaxie et l'univers. et l'espace intergalactique. Et, mais parfois, ils sont obligés de se battre pour trouver la paix. Mais c'est top.
Et cette mission sur la Lune, ça te fait peur entre toi et moi?
Non, parce qu'avec l'entraînement, avec l'équipe, on s'est vraiment approprié le sens de cette mission. Et maintenant, si on nous la retirait, on aurait l'impression qu'on nous a retiré quelque chose dans notre vie. Donc voilà, c'est l'entraînement qui fait que finalement, on s'est approprié.
Alors, c'est un astrophysicien reconnu. Et il te dit, moi, je suis prêt à faire un pari fou. Je suis persuadé que la base lunaire, elle ne communique plus avec nous à cause de quelque chose de vivant. Et je suis prêt, alors il met 100 dollars, je suis prêt à parier 100 dollars avec toi.
Qu'est-ce que c'est ?
Petit joueur, on parlait de 3 milliards tout à l'heure.
Je parie pas.
Je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir. Donc tu pars à la New Florida Bakery, c'est ça ?
Oui.
Au contraire, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu dis à Mister Sora qui
Je fais diversion.
Tu fais quoi ?
J'envoie un de mes mini-robots à un endroit et, genre, et puis le temps qu'il le voit, je file.
C'est à 70% de chance de marcher. Lance ton dé. Est-ce que c'est
53.
Effectivement, il y a un petit robot qui détourne l'attention de Mister Sora et tu peux sortir. Tu sors et, excuse-moi, je vais y arriver. Excusez-moi, il y a plein de choses à traiter. Planétologue, excuse-moi. Donc, tu avances dans Miami et tu vas dans une... Enfin, c'est éclairé, mais effectivement, les bâtiments ne payent pas de mine. C'est un petit peu angoissant. Et la New Florida Bakery, qui, comme son nom l'indique, est une boulangerie, tu arrives devant et la devanture est fermée par un rideau de fer, mais entre le rideau de fer, tu vois de la lumière. Qu'est-ce que tu fais ?
Je tape... 3 fois au rideau de fer.
Rien ne se passe.
Je dis, il y a quelqu'un ?
Alors, il y a beaucoup de bruit dans la rue.
Il y a quelqu'un ?
Tu as un gars qui s'appelle Matt Vary. C'est un gros type musclé torse nu avec des tatouages qui arrive derrière toi. Et il dit, ça va, vous criez, madame ? Vous avez un problème, peut-être ?
J'ai rendez-vous.
Dans
ici
cette
même.
Boulangerie fermée ?
Exactement. Et je sais que c'est ouvert. Regardez, il y a de la lumière.
Vous voulez cambrioler cette boulangerie ?
Absolument, j'ai une tête à vouloir cambrioler cette boulangerie.
Vous n'avez pas une tête à être là à cette heure-ci ?
Écoute, comment tu t'appelles ?
Matt Vary.
Écoute, Matt Vary. Tu vas aller me chercher le prénom là, du jeune homme qui m'a contacté sur Twitter ?
Weilang.
Weilang, tu vas aller me chercher Weilang et tu vas lui dire que R de Génie est là et qu'elle l'attend.
Alors... Lui, il est pas sorti de la boulangerie.
Il était. Mais il allait y aller.
Non, il dit. Alors il dit, je sais pas qui est Weilang. Et d'ailleurs, tu me tutoies, tu me donnes des ordres. Moi, t'es qui? En vrai. Tu sais, il te regarde de haut.
Je pensais
vraiment...
qu'il était dans le truc.
D'accord,
moi.
Je te laisse réfléchir à tout ça. Donc, CBS, tu es reçu par la présentatrice qui s'appelle.
Ah ben, yeah, je lui ai dit de m'attendre au stand. Hein. On se retrouvera dans une soirée mondaine.
Dirty Mary. Venez, installez-vous. Ouais, alors, ça, tu étais dans un fauteuil.
Ça donne le ton de l'émission. Hein.
Patoche, votre surnom français,
Marie.
C'est beau, si délicat.
Oui. Patoche.
Vous considérez plutôt comme une star ou comme un astronaute ?
Je me considère comme une star-stronaute, bien entendu.
Star-stronaute, alors tout le monde applaudit. Et qu'est-ce que vous feriez si vous rencontriez un lunien ?
Un lunien, bon, vous êtes. Bon, je comprends bien qu'on est à la télé, ma chère Marie, mais vous êtes peut-être un petit peu en train de fantasmer.
Imaginez rencontrer un lunien, vous lui dites quoi ?
Eh bien, écoutez, je lui parlerai de la vie sur Terre, bien entendu, des formidables émissions de CBS. Nous échangerons sur nos différences culturelles.
Vous seriez prêt à faire une exclusivité avec CBS pour un lunien ?
Bien entendu, Dirty Marie, bien entendu.
Est-ce que vous avez déjà envisagé que vous pourriez mourir ?
Oui, bien entendu. On peut mourir plein de façons. On peut. Voilà. Oui.
Vous avez fait votre testament ?
Est-ce que j'ai fait mon testament ? Oui, bien sûr. Hein, tout ça est géré par une armée d'avocats, bien entendu. Mais on peut mourir avec une casserole qui nous tombe sur la tête en cuisine. C'est quand même plus luxueux, enfin plus glamour de mourir sur la Lune.
Très bien. On va arrêter l'interview pour le moment. Je retourne vers Nexus. Donc, il dit, bon, bah, c'est très bien cette histoire. Je vais te présenter mon nouveau copain. Il a un tigre apprivoisé, c'est illégal. Il s'appelle Pluche. Tu veux le caresser ? C'est un gros tigre.
Mais il a l'air amical.
Il a l'air drogué.
Il a pris de la cocaïne, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, je suis pas très à l'aise avec les animaux.
Tu veux pas le caresser ?
Il a l'air de faire un peu peur.
Ok, tu sais quoi ? Dans 10 minutes, je fais un concert de ouf dans plein cœur de Miami. Est-ce que tu veux être sur scène avec moi ?
Ah, clairement.
Trop bien.
Voilà, c'est une des dernières soirées sur Terre. Je veux la vivre à fond, quoi.
Non, mais tu seras sur scène.
Ouais, ouais.
Moi, Pluche et tout. Ok, super. Donc,
après, je chante pas, moi. J'accompagne, je danse.
Ouais, ouais. Donc, tu rentres dans sa voiture de luxe.
Ouais.
Et tu es... alors, il y a toi au milieu. Il y a ton ami Nexus qui te tient par la main. Il fait des stories avec toi. Et il y a Pluche qui te regarde un peu...
Il est à côté de nous ?
Ouais, il est... Voilà. Tu peux faire une story, si tu veux. Mais voilà. Et je reviens sur notre pilote, fan de Star Trek.
J'ai réfléchi à ce que je...
On est avec Pluche dans la voiture, là. On se dirige au concert. On se retrouve là-bas, toute la commu. Let's go !
Très bien.
On ne parie pas d'argent, mais je lui dis, si jamais tu as raison, tu seras le premier à le savoir, je t'appelle direct depuis la une.
D'accord.
C'est beau.
Ça, c'est beau. Et j'ai une question un peu mélancolique. C'est que, tu vois, l'astrophysique nous apprend que l'électron, l'atome, ils ont une durée de vie. Et moi, je me dis que quoi qu'on fasse, un jour, ben, non seulement on va mourir, mais même si on laisse quelque chose derrière nous, et ben, à un moment, tous les atomes seront détruits. Il n'y aura plus rien. Et à quoi ça sert finalement ?
Alors, détruit peut-être, mais il n'y aura plus rien, je ne suis pas d'accord. Parce que tout se transforme.
Tout se transforme, mais...
Donc, s'ils disparaissent là, c'est qu'ils apparaissent sous une autre forme rayonnante ou immatérielle ou quelque part.
Oui, d'accord, mais si on se transforme en lumière, la belle affaire, vous pensez qu'on pourra vivre sous forme de lumière ?
Ah ben, Star Trek, la téléportation. Transformation de matière en énergie rayonnante, énergie rayonnante en matière... Ça, c'est depuis que je suis gamin, c'est mon rêve, ça. Enfin, c'est pas notre génération, mais un jour peut-être.
Mais dans Star Trek, il y a quelque chose qui est que quand on se téléporte, puisque tu en parles, quand on se téléporte dans Star Trek, on crée un clone de nous lointain et on détruit l'original.
Non, en fait, c'est quelque chose qui se vérifie en laboratoire au niveau des particules.
Oui.
D'ailleurs, j'avais étudié ça un peu à l'époque quand j'étais étudiant, hein. Mais on ne sait pas le faire au niveau d'un objet structuré avec des molécules complexes. Mais... les lois de la physique permettent à de la matière d'être transformée en lumière, donc il n'y a plus de matière. Ce n'est pas une destruction, c'est une transformation. Et la lumière, on la retransforme en matière ailleurs.
D'accord.
Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est limité par la vitesse de la lumière. Donc, mais déjà, ça, c'est pas mal. Hein,
300 000 km par seconde. Ouais.
Et puis, en plus, quand on va à la vitesse de la lumière, on ne sent pas le temps passer. Eugénie. Donc, tu es face à ce Matt Vary qui fait 2m3 et qui te sent légèrement insulté par une étrangère qui ne connaît pas et qui pensait que tu allais cambrioler une boulangerie. Tu dis quoi ?
Je m'excuse, je pense qu'on s'est mal compris, Matt Vary, mais en fait, j'ai un rendez-vous ici. Je ne suis pas d'ici du tout et je voudrais que tu m'aides.
Tu me donnes de l'argent et je te fais rentrer.
Mais non, Matt Vary, ça va entre nous.
Bah, si je te rends service, tu me rends service.
Mais enfin, tu pourras raconter...
Donne-moi 100 dollars, ça va.
Demain, je suis dans l'espace et je te ferai une dédicace, promis, Matt Vary.
T'as peut-être 100 dollars, non ?
Fais un jet de convaincre.
Je suis nulle à ça, en plus.
Petite dédie.
Oh là. 75. Dans l'espace.
Matt Vary.
Dans l'espace, loin ?
Ouais,
Sur Jupiter ?
Non.
Il ne te croit pas, hein, puisque t'as raté ton jet de
convaincre. Bien sûr, il ne me croit pas.
Donc, il y a un autre gars qui arrive également, il s'appelle H.A. Mohamed.
C'est la merde.
Et il est tout aussi musclé que lui. Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut cette fille ? Elle me dit qu'elle veut aller dans l'espace, je crois qu'elle est chelou, elle vient pas, elle a un accent.
Je lui montre le DM Twitter que j'ai eu et je lui dis que j'ai rendez-vous. Et j'envoie en parallèle un message à la personne qui m'attend pour lui dire que je suis devant.
Alors, elle
et qu'ils viennent me sauver.
Alors, ils réfléchissent et ils disent, OK, on va t'aider. Et ils soulèvent à deux le rideau de fer.
Il change d'avis ?
Oui, il change d'avis. Alors, cette boulangerie est vide de pain et de croissants. Et il y a une porte qui donne sur l'arrière, si tu veux. Est-ce que tu veux y aller ou...
Oui.
Ok. Donc, il rentre avec toi.
Ok, je viens avec mes deux potes, salut.
Non, alors tu passes la porte, tu descends.
Ouais.
Eux, ils restent en haut.
Ok. Vous voulez venir ?
Il dit non, c'est bon.
Oh, Ok, pas fun.
Tu descends, et en fait, c'est une arène clandestine de combat de robots.
Je m'y attendais, du coup.
Donc, c'est une grande arène underground, où il y a dedans une petite arène grillagée, avec des bords, avec des lames coupantes, tout ça. Et tu vois des robots qui sont en train de se battre. Et notamment, ton adversaire Wang Lei, qui est un robot qui a une sorte d'épée comme ça, tournoyante, qui pousse les autres robots sur le bord pour qu'ils se fassent éclater. Quand tu arrives, le silence se fait, parce que tu es une des plus grandes conceptrices de robots de l'histoire, tu vois.
Oui.
Donc, tout le monde dit, oh, elle est là, tu vois. Et il y a Wang Lei qui te fait ça, tu vois.
Alors, tout le monde veut ma main.
Oui, non, mais tu as un fan. Tu as une fan qui s'appelle Mei. Elle te dit, est-ce que tu veux que je te prête des robots? Tu as ton robot avec toi?
J'ai mon robot avec moi, toujours, bien sûr, le meilleur de mes robots.
Comment il s'appelle, ce robot?
Il s'appelle il s'appelle C3PO.
Alors, il s'appelle C3PO. Je vais te laisser réfléchir au concept du robot, d'accord? Ah. Et pendant ce temps, je vais me tourner vers... Alors, Marie, oui. Elle dit, on a une ancienne amie à vous qui est dans les coulisses, là, que vous avez amenée.
Oui, Beignet. Non, je ne l'ai pas amenée.
Est-ce qu'on peut faire venir Beignet sur scène?
Ah, mais ça n'a rien à voir avec moi, Beignet.
Vous avez rompu, c'est ça? Vous n'êtes plus ensemble et vous entendez dans les coulisses?
Moi, vous m'invitez très gentiment. On s'est croisés parce qu'elle était là, visiblement, pour un autre tournage. Voilà.
On peut la faire venir sur le plateau parce qu'elle vous connaît un peu. C'est un peu une histoire entre vous.
Écoutez, si vous voulez, mais je trouve ça un petit peu intrusif.
Ah, mais si vous voulez pas, moi, si ça vous gêne, je la fais pas venir. Alors le public fait ouh.
Bon, moi, j'adore faire au public. Je suis un vieux gland quand même. Oui, bien sûr. Bon, allez faites venir Beignet. Faites venir Beignet, bien sûr.
Alors Beignet, actrice de charme, supportrice de Trump, militante pour la NRA. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est votre fan numéro 1?
Vous savez, j'ai beaucoup de fans. Je ne saurais dire si Beignet est ma fan numéro 1.
Alors, elle se met à ton cou, elle te dit « Je crois qu'on s'adore. Et est-ce que, avant de partir sur la lune et peut-être de mourir, tu vas pas dire au public que, je sais pas, on peut se marier ?»
Ouais, pourquoi pas? Mais non, mais n'importe quoi!
Il a dit pourquoi pas!
Mais non! Non, qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Enfin, Beignet, de toute façon, tu as des milliards d'hommes à tes genoux, donc pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Non, écoutez, je reste un cœur à prendre. Je pars longtemps. Je vais pas me marier sur un coup de tête, même si on est sur CBS, chaîne télé que j'adore, bien sûr.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il se passe quelque chose entre vous deux, te dit Marie?
Écoutez, je suis assez dans les journaux people. Pas besoin en plus de fantasmer une relation qui, excuse-moi, baignait.
Et politiquement, ça se passe bien entre vous, Trump
Bon, écoutez, on en est à quelle génération de Trump, là? Trump 6e.
Trump veut revenir.
Non, politiquement, enfin, je commente assez peu politiquement, mais on va dire que je suis un scientifique, donc évidemment, le nom de Trump me laisse plutôt sceptique, hein, je vais être honnête avec vous, voilà.
D'accord. Je retourne à toi, tu arrives sur cette scène de concert incroyable où 50 000 fans attendent et bloquent une partie de Miami d'ailleurs. Et il y a Nexus qui dit ouais, mon pote, il va sur la Lune et il va mettre mon CD sur la Lune, pas vrai?
Yes, je confirme.
Et tout le monde fait trop bien, le gars il va être sur la Lune demain, c'est incroyable. Voilà, donc il se passe ça. Toi, tu sais quoi ton robot?
J'ai un robot piloté hyper furtif qui arrive à placer des bombes en 2 spi.
Il met des bombes sous l'autre robot?
Ouais, exactement, et il le fait exploser et j'ai gagné.
D'accord, alors, on te donne des bombes, admettons, donc on te donne de quoi construire.
Enfin, genre des mines.
T'as déjà ce
robot-là.
Donc tu l'as construit en préparation. Il faut que tu le construises en flashback, au moins. Donc fais-moi un jet de connaissances techniques. Ah non, connaissances techniques. Est-ce que ce robot existe? 53, c'est réussi.
Ouais.
Donc ce robot existe, tout le monde dit. Il s'appelle comment, ce robot?
Il s'appelle C3PO. Il est dans mon sac tout le temps,
C3PO,
en fait.
Tout le monde
il
dit,
est minuscule.
C3PO, la machine à bombes. Et maintenant, tu vas le piloter pour voir si tu peux gagner contre lui. Tu as pilotage de robot.
Ouais.
C'est parti, contre Wang Lei.
50, j'ai 70.
Sur 70, et tu exploses l'épée brisée.
Yes.
Même Wang Lei dit, il admet, il dit, tu es la plus forte.
Bah, évidemment.
Voilà. Il te dit, est-ce que je peux t'offrir un verre dans un bar?
Avec plaisir.
Bah écoute, c'est le début d'une grande amitié. Donc, tu es en train de discuter avec ton ami dans un bar. Et là, en fait, il ne se sent pas très bien. Il devient très blanc et il fait un malaise cardiaque. Il s'effondre au sol.
Ah bah, je pratique le CPR, là, le Resuscitation, comme on dit. Là, voilà. Alors, et je ranime, j'appelle.
Donc, normalement, tu as une compétence en soigner, médecine.
Ah,
médecine.
Oui.
Tu as 80. Vas-y, lance les dés et fais moins de 80. Alors, juste, voilà, ces deux-là. 94. Alors, tu fais la... Pourtant, tu la connais par cœur. Le cas est classique. Et là, ça se passe mal. Tu lui casses une côte. Il se passe un truc. Il est encore en arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde dans le bar dit... Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle une ambulance?
Oui.
Alors, il appelle une ambulance et il dit... Il y a un concert privé en plein milieu de Miami. Il n'y a aucune ambulance qui peut venir. Il y a un gars qui dit... moi, j'ai une voiture. Est-ce que vous, quelqu'un sait piloter une voiture? Moi, j'ai eu trop bu. Vous voulez piloter la voiture?
Non, d'abord, je demande s'il y a quelqu'un là qui peut prendre ma place pour l'aide médicale d'urgence.
Ouais.
Mais sinon, je conduis, oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas bu, je n'ai pas pris de cocaïne, je n'ai rien pris.
Alors, c'est à ce moment-là que tu arrives dans le bar où tu vois ton ami François
oui.
qui porte quelqu'un dans ses bras et qui a les clés d'une voiture à la main.
Mais François, qu'est-ce qui se passe?
C'est un ami astrophysicien et il s'est senti pas mal. Je pense qu'il fait une intoxication à quelque chose. Il faudrait l'amener dans une salle d'urgence parce que moi-même, j'ai pas pu l'aider. Mais il respire, il est vivant. On a okay. besoin de l'amener aux urgences.
Très bien. Est-ce que j'ai pas un système de robot que j'aurais construit qui pourrait le maintenir le temps qu'on l'amène à l'endroit?
Non, c'est pas Star Trek quand même. En tout cas,
on est en 2000.
Tu t'installes dans une Maserati jaune.
Injection d'adrénaline.
Et tu vas me faire un jet en pilotage parce que tu sais très bien piloter tout type de véhicule et notamment les voitures de sport dans une Miami pleine de gens à cause d'un concert incroyable.
C'est pas de ma faute.
Moi, non, c'est pas tout à fait ta faute. Je te laisse prendre tes dés et lancer. Tu as en pilotage, tu as. Attends, je regarde. Piloter un aéronef, mais bon, ce sera piloter une voiture.
70.
Va-t-il réussir à sauver son
ami? À drifter partout.
C'est un 91. Alors, il n'a pas été envoyé sur le truc, mais c'est un 91. Et malheureusement,
Poncho
mourra d'une attaque cardiaque.
Oh, Poncho,
je vais sauver.
Mais ça va le briser.
Ça amène ses cendres dans l'espace, vous êtes d'accord?
Oui.
Oui.
Wow, de toute façon.
Vous venez d'avoir une conversation.
On le met dans le sachet de cocaïne, ça ne se fera pas.
En tout cas, le lendemain. Le lendemain, petit débrief avec avec le docteur Batsuko.
Grosse soirée. Batsuko, hein.
Il dit bon, la quarantaine va commencer. Je voudrais qu'on parle de hier. Je vois que vous pleurez de rire, mais la fonction d'astronaute, c'est une fonction qui est pleine de dignité. Vous êtes nos ambassadeurs dans l'espace. Vous étiez hier sur une scène. Vous vous êtes engagé à mettre un CD. Qu'est-ce que vous pensez de la pollution spatiale sur la Lune?
Alors déjà, j'aimerais le convaincre que c'était aussi un rendez-vous pour négocier des futurs financements pour des missions, parce que Nexus est quelqu'un de très très riche et le tourisme spatial étant ce qu'il est devenu en 2024.
Mais là, vous avez vu la couverture du CD, c'est des personnes qui sont en bikini.
Ah, moi, je crois que c'était juste jouer le CD.
Après, la culture, moi, c'est pas à moi de. Voilà.
Mais voilà, et la pollution lunaire, c'est un vrai sujet.
Bah écoutez.
Donc vous allez le déposer, ce CD sur la.
Mais c'est une forme d'art.
Parce qu'on s'est déjà engagé à mettre un drapeau de.
La pollution lunaire, j'allais dire.
Non, mais il est bio, ton disque.
Moi, j'ai quand même 90 en convaincre.
On va quand même envoyer tous les anciens
pays. 90 piles, mais c'est bon, tu as suffisamment. Il dit vraiment, c'est limite, mais ça passe. Bon, Beignet, là.
Oui, non, mais Beignet m'a sauté dessus. Bon, ça va, j'ai quand même plus ou moins géré. Je me suis détaché relativement de cette folie furieuse. Mais c'est vrai qu'elle m'a sauté au cou. Bon, évidemment, si je disais non, tout le public allait avoir un avis négatif de moi. C'était pas bon pour la campagne avant le décollage. Donc, je l'ai fait venir.
Oui, plutôt, oui.
Mais voilà, je l'ai joué détachement. Je me suis détaché de ces idées un peu trumpistes, arriéristes. Bon, on est bon.
Il maîtrise bien, hein, là.
Oui, il fait ça tous les mercredis. C'est le début d'un long mois de quarantaine. Dans cette jolie villa, qui néanmoins définit les limites d'où vous pouvez aller. Mais c'est beaucoup plus spacieux qu'une base, donc vous en profitez. Il va falloir choisir un jeu de société en commun. Est-ce que vous voulez jouer à un jeu qui vous plaît?
Codenames.
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 Ah ouais.
On est quatre en plus.
Vous jouez à Codenames. Très bien. Vous essayez vos combinaisons de vol, vous voyez vos amis dans un parloir, et enfin, vous avez le droit d'emmener un kilo d'affaires personnelles. Ah. Et je vais demander au chat de suggérer quelque chose à emporter et vous êtes obligé de prendre en plus de ce que vous voulez quelque chose qui est donné par le chat. Est-ce que je peux avoir le chat Twitch qui va nous suggérer de choses à emporter dans l'espace, dans votre kilo? Vous pouvez me dire, je n'emporte rien. Mais il faut au moins emporter. Alors, un kilo de drogue, non. Ok. Remarque, il t'a dit que bah, tu tendais de la cocaïne.
Bah, peut-être dans mon CD, voilà, il est caché.
De la cocaïne, donné, d'accord. Non,
mais dans le sas, ça, ouais, ça, c'est un problème. Hein.
Nous verrons
ça. C'est l'os problemos, ça. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Alors, hein.
des boules de pétanque, une maquette de l'Enterprise, des BD Astérix, une boîte à meux, une statue de cochon.
Non, mais des trucs utiles.
Des pattes, un clavier Beppo.
Moi, je dis, genre...
Est-ce que je peux emmener mon trophée YouTube que je pose sur la une?
Bah ouais, si tu veux.
On va poser YouTube. Combien d'objets dehors?
Du fromage.
Bon, j'emmène quelques spécimens.
Une Switch.
De fleurs.
Tintin au Congo. Alors.
Ah, Tintin sur la lune, plutôt. Ah oui, c'est celui-là.
Un kilo de graines germées. Un CD de Claude François. Alors, qu'est-ce que... Alors, dites-moi si vous... Un nerf, un bonsaï, un globe terrestre.
Oui, on est obligé de prendre une de ces suggestions. Ouais,
ah oui, d'accord.
Un hamster, un tardigrade, un Rubik's Cube.
Un bonsaï, ça me plaisait, moi.
Un bonsaï.
Rubik's Cube.
Rubik's Cube.
Ah oui.
Du saucisson. Un livre sur Gustave Doré.
Moi, je prends le hamster.
Le hamster. OK, et...
Il survit.
Parce que le saucisson... Bah,
non, non. Un poster de Justin Bieber.
Non.
Une figurine de Mass Effect. Les cendres de la mi-mort, ça sent...
On l'a pesanté, ouais, un peu stressé, mais...
Un Bill Bokeh.
J'ai volé avec des reins.
Un sextoy, une épée, le drapeau hongrois. Un bloc-notes. L'anthologie Star Trek en DVD. Des peluches. Une photo de Jacques Chirac. Alors, c'est bon.
Une photo de Jacques Chirac, je trouve ça marrant.
D'accord. Une photo de Jacques Chirac. Je te donne des noms pour le hamster. Jun Insen, Mister Gigi, Glabou.
Mister Gigi.
La page 28, Delt Nira, Nicolas, Foufamad.
Yoda.
Musberry.
Allez, Musberry.
Musberry, le hamster. Très bien. Vous avez votre... Vous revêtez vos combinaisons, le jour est arrivé et on vient vous chercher de pièce sécurisée en pièce sécurisée pour vous accompagner sur le landing pad avançant sous les caméras. Le Space Launcher System est une grande fusée de 111 mètres de haut accompagnée de deux petites. Avec vos modules, le module Orion tout en haut accroché à un grand support de métal où se trouve un ascenseur que vous prenez 2 heures avant le décollage. Vous vous installez dans le vaisseau, vous êtes à Cap Canaveral dans la capsule Orion. Une longue attente commence. La météo est parfaite. Ce soir, il y a quelques nuages. Tout le monde est un petit peu stressé, sauf le pilote qui a l'habitude.
Et qui est occupé.
Qui est occupé à...
Bah, à gérer les systèmes, à vérifier les paramètres et tout. Enfin, à faire le job, quoi.
Est-ce que quelqu'un veut faire une petite blague pour détendre l'atmosphère?
Patoche.
J'en ai une, mais elle n'est pas très fine, quoi.
Une autre blague? Une blague, non?
Je suis pas très drôle.
Donc, vous ne trouvez pas de blague, c'est votre dernier mot.
Patoche?
Non,
Patoche. Vous êtes donc...
Ah, j'en ai une bien grasse, mais...
Non, ouais. Non. Alors,
c'est que je raconte toujours en
etc. À un moment donné, un petit panneau qui s'ouvre et puis un petite marionnette qui nous souhaite bon voyage, c'est sympa. Mais parce que personne ne s'attend à des choses qui ne sont pas purement professionnelles. Mais...
Alors, il y a une petite marionnette qui sort d'un petit tour, une blague qui était prévue par le pilote. Vous D'accord. avez une réaction?
Surpris, quand même.
Ils vont perdre des points.
Et toi?
J'ai pas une énorme réaction. Non, je rigole.
OK, et toi?
Ah, ça me rappelle Beignet. J'y suis originé nulle part.
Alors, ça vous fait rire, mais toi, t'as dit « je suis surpris ouais. », tu vas faire un jet de santé mentale.
Le traumatisme. Il va y avoir des marionnettes partout.
Non, parce que lui, ça me fait pas rire. Ah, donc,
Non. Bon, les
en fait, les blagues, on les fait en orbite, mais...
97, bah, tu perds un point de santé mentale. Vous sentez que votre ami, l'influenceur, il a des sueurs froides. Il sent mal, ça va pas bien.
C'était une blague.
On le rassure.
Bébé, enfin.
Tu vois, même ma concentration avant le décollage.
Plus que 10 minutes avant le décollage, et il se passe quelque chose, c'est que tu es en train de tout vérifier, tout est OK. Mais sous le moniteur qui est devant toi, parce que vous avez des écrans d'ordinateur devant vous, il y a une petite diode qui devrait être allumée, et elle est éteinte. Qu'est-ce que tu fais?
Je rencontre au centre de contrôle.
Alors, on va appeler le centre de contrôle Cadmos, qui sera en direct là. Grégory, es-tu là?
Recom, j'écoute.
Alors, il est là. On l'a pas en... On a juste l'audio, c'est ça?
Ah,
Il est là. Voilà. Alors, François, je te laisse parler à Eurocom et à reporter le problème.
Oui, voilà, j'ai la lampe, la diode LFA2 qui est éteinte alors qu'elle devrait être allumée en vert pour confirmer que tous les systèmes sont OK. Est-ce que c'est un faux signal ou une vraie panne?
OK, je copie, les experts ont entendu. Est-ce que l'écran fonctionne?
Oui, l'écran a tous les paramètres. C'est juste l'indicateur, le témoin d'état qui est sur le côté.
OK. Pendant que les experts vérifient, est-ce qu'il y a d'autres choses à remonter?
Non, pour le moment, l'équipage est prêt. On est vraiment
bien. C'est un véritable dialogue, voilà, qui se passe.
On est prêt à partir, tout marche bien. Le centre de contrôle voit tout dans le vert. De leur côté, c'est que nous, dans le cockpit, qui voyons cette diode qui est éteinte. Et je n'ai pas les moyens de vérifier si c'est un défaut de capteur ou d'alimentation de la diode ou c'est un vrai témoin d'une anomalie.
Alors Grégory, je te laisse 2 secondes.
Oui.
Je te laisse 2 secondes. Vous êtes les ingénieurs. Temporairement, vous êtes les ingénieurs. Et vous ne savez pas pourquoi cette diode qui devait être allumée est éteinte, mais ce n'est pas si grave non plus. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la décision que vous prenez?
Par rapport à cette diode?
Oui.
Alors moi, je serais plutôt d'avis d'attendre on quand même les directives.
Si tout est dans le vert, on part. Hein.
Ah ouais, non mais yo.
Moi je fais confiance au
pas pilote. Pas d'embrouille quoi.
Ah non, vous êtes des ingénieurs, c'est plus le pilote. Ah, oui. Vous moi, êtes j'ai... en train de discuter
oui.
entre non, mais, vous.
Oui, alors, en tant qu'ingénieur, je pense que ce qu'il faut, c'est réfléchir à toutes les actions qu'on peut demander à l'équipage et au pilote pour essayer d'isoler la panne, pour voir d'où vient le fait que la diode est éteinte.
Moi alors, j'ai des connaissances techniques.
Sans intervention des ingénieurs, on délaye le. Enfin, ouais. On reporte à demain le. Voilà. Alors, le décollage. L'équipage ne peut pas faire ça. Donc c'est une décision de est-ce que c'est pas grave, on s'en fout, ou est-ce que on prend en compte cette diode et on se pose.
En gros, est-ce que c'est une ampoule à changer ou est-ce qu'il y a quand même un vice?
C'est-à-dire est-ce qu'il y a le moindre risque supplémentaire à porter à la mission avec cette diode?
Toutes les fonctions critiques pour la mission sont dans le vert.
D'accord. Il y a juste une diode qui fonctionne pas.
Et j'ai des connaissances techniques, je peux faire quelque chose.
Ouais, vas-y.
Je peux voir.
Moi, je suis surtout dans le théorique, moi.
66, tu penses que, pour toi... Alors, t'es pas sûr à 100% parce que t'as pas construit la fusée. Tu penses que c'est juste une diode qui devrait marcher, mais qui marche pas.
D'accord.
Mais peut-être c'est plus grave.
Okay. Tu peux tapoter sur la diode pour voir si elle se rallume.
Ça arrive. Tu tapotes, pof.
Alors, tu tapotes, ça n'est... Alors, tu demandes aux gens de tapoter, les pilotes tapotent, et ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on prend la décision de reporter le vol ou pas?
Comment est la météo demain?
François, enfin l'ingénieur incarné par François estime que les fonctions critiques fonctionnent, on devrait partir. La météo pour demain? Dans la soirée, il y a un orage qui arrive.
Ah, donc il faut faire la balance risque bénéfice. Est-ce que la météo est pire demain? Est-ce qu'il vaut mieux pas partir par un très beau temps avec juste une diode qui marche pas qu'attendre demain à réparer la diode et partir avec un temps moyen?
On se consulte entre nous parce que nous. Je parle de nous, équipage. Ouais. On a le droit de dire qu'on ne veut pas partir.
D'accord.
On a notre mot à dire, on a notre veto possible. Maintenant, on a une intelligence artificielle extrêmement poussée à bord, qui prend tous les paramètres, la météo, etc. Et elle nous dit que c'est bon.
Eh bien, c'est bon.
L'intelligence artificielle vous dit ça va bien se passer à 98%.
Oui, il n'y a jamais de 100% de toute façon dans ce genre de mission. Donc...
Si, parfois. Ouais. Avant la diode, c'était 100%.
Donc, on vote entre nous. Moi, je suis pour.
Moi, je suis pour.
On part.
98%. On
part. L'histoire n'attend pas, on y va.
Grégory, que nous disent les ingénieurs? Grégory, Eurocom.
De Eurocom.
Oui. Alors, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Alors, les ingénieurs disent qu'à 98%, tout est nominal.
Donc, on peut y aller?
ils ont besoin de faire quelques vérifications supplémentaires et ils préconisent de repousser de 1 heure le vol.
Ok.
Oui.
Bah, une heure, c'est bon,
donc,
on peut attendre.
Ils font les vérifications pendant 1 heure. Rien ne change vraiment. Mais à moins que vous vouliez, le vol aura lieu. Ça vous va?
C'est bon.
Merci Grégory.
C'est bon.
Merci Grégory.
Merci Grégory.
La séquence chrono négative est entendue. On vous annonce minute par minute le décompte. 2 minutes avant, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais ou pas?
On allume les auxiliaires de puissance.
Non, 2 minutes avant, on lève les mains, normalement. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. On lève les mains pour vérifier que tout fonctionne et que personne n'a quelque chose sur un bouton. Ouais. Plus que 20 secondes,
ce n'est
plus
pas
que
la 10 cocaïne.
Secondes. 7 secondes avant le décollage, on met à feu le moteur principal. Les tests sont corrects. Le décompte se poursuit. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage.
Lift off.
Vous sentez une pression immense sur vos corps alors qu'à l'extérieur, tous peuvent voir votre vaisseau partir dans les cieux. Est-ce que vous te souviens des séquences qui vont se passer à mesure que le vaisseau part dans le ciel ?
Oui, on l'a tellement fait en simulateur. Alors, les boosters qui se séparent au bout de 2 minutes.
Détachement des deux lanceurs. Voilà, ensuite... Ils ne savent pas, donc vas-y, dis-nous, détachement des deux boosters.
Après, on continue, au bout de 2 minutes, on est au-dessus de l'atmosphère, le ciel devient noir alors qu'on décolle au milieu de la journée. Ça, c'est assez spectaculaire.
Voilà, on s'en va. Et donc, après le détachement des deux lanceurs, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un autre détachement ?
Oui, il y a plusieurs étages, il y a 2 étages.
D'accord.
Et on continue sur le 3e étage, jusqu'à atteindre la vitesse orbitale terrestre.
11 km secondes, c'est ça ?
Voilà.
Et là, cette fois-ci, on est...
Alors, c'est la vitesse orbitale. Après, on nous met sur une orbite de transfert Terre-Lune, 11 km par seconde à peu
près. Vous passez au-dessus de la...
Et là, on est parti vers la Lune et on a pris l'élan pour aller vers la Lune. On est engagé de toute façon à atteindre la Lune, au pire à la contourner comme Apollo 8, mais voilà.
Vous avez 98% de chances de réussir. Qui veut lancer le dé et faire moins de 98?
Qui pourrait cette responsabilité? Non,
mais notre spécialiste technique, Art de Génie, a très souvent gagné.
Alors, tu veux lancer les dés, faire moins de 90.
Et de toute façon, au pire, on contourne la Lune et on revient. Apollo 13.
Oui, ouais. Oui, mais bon. On va voir.
C'est un ratable.
C'est un ratable. 81, c'était beaucoup, mais effectivement, vous êtes en apesanteur et déjà sur la route de Gateway, alors que la Terre immense diminue sur l'horizon. Ce sera un voyage de 10 heures. Vous pouvez déboucler vos ceintures et annoncer à l'opérateur du centre de contrôle que tout se passe bien. Vous êtes en apesanteur, vous faites...
Petite story.
Une petite story, vas-y.
Ouais. Apesanteur, il faut profiter. Salut la commu, le voyage se passe bien, on est en apesanteur, regardez, on est en direction de la Lune. Allez, on se retrouve
il est où
dans
le
quelques jours.
Où la tête, oh là là.
Les heures passent, votre voyage se passe bien. Vous allez vers la Lune, c'est quand même extraordinaire. Ce n'est peut-être rien, François, mais tu vois une vibration régulière du dosimètre Lumina. Je précise parce que c'est important, développé par le laboratoire Hubert Curien, X-Blue et le CNES. Donc, le dosimètre Lumina de radiation. Donc, toutes les 5 secondes, il fait... Il monte un petit peu. Est-ce que tu... Face à ça...
On compare tous les dosimètres, parce qu'il y en a plusieurs.
Et ils font tous ?
Et si tous, ça veut dire qu'on est exposé à un niveau de radiation plus élevé que la normale.
Ah !
Et là, on regarde la courbe d'évolution pour prédire dans combien de temps, si elle continue comme ça, elle va dépasser le seuil critique pour notre santé.
C'est une très bonne réponse. Et donc, tu t'aperçois que dans 2 minutes, ça va dépasser le seuil critique.
Ah, tout de même.
Donc là,
parce que là, maintenant, c'est toutes les 3 secondes.
Donc là, on active notre protocole de protection contre les radiations. On avale de l'iode.
D'accord.
Et on se met dans un endroit particulier de la capsule qui est mieux protégé que l'autre partie.
Il est trop fort.
Il est trop fort.
Vous seriez paumé, que vous appelleriez le Cadmos et tout, non. Mais bon.
Mais on a été entraîné à ça.
Ah, d'accord.
En cas de haut niveau de radiation, vous vous souvenez, dans le simulateur, on se met à tel endroit, on oriente le vaisseau. Le vaisseau, il part, il peut changer d'orientation, sa vitesse reste vers la Lune. Mmh. Et on se met dans l'orientation qui nous protège.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment une orientation peut nous protéger ?
Parce que les rayons cosmiques, donc c'est pas le métal qui les protège. Le métal, ça protège des particules physiques, les micrométéorites, les débris. Mais pour les rayons, les radiations, les particules ionisées, les protons très lourds, c'est des isolants. C'est tout ce qui est en plastique et liquide. Donc on se protège par nos réservoirs de carburant et d'eau. Voilà.
Belle démonstration, c'est extraordinaire. Donc
c'est déjà arrivé dans l'ISS. Ah. Quand le Soleil, à un moment donné, on leur dit, lorsque vous passez près des fortes latitudes de l'orbite, allez vous mettre dans tel endroit parce que le soleil...
C'est effectivement une éruption solaire qui va vous balayer dans quelques secondes. Vous suivez ce protocole et quand la tempête solaire arrive, tout fait noir, tout devient noir parce que les instruments électroniques s'éteignent.
Voilà. Ouais.
Donc, si on peut éteindre d'ailleurs les diodes 2 minutes. Et vous êtes dans le noir. Et vous avez pris un certain nombre de rayons cosmiques. Une main innocente lance un dé à 6 faces.
Allez, innocente, je sais pas.
Allez, patoche.
3.
3. Eh bien, j'enlève 2. Vous avez pris 1 gray, c'est ça ? 1 giga gray ?
Oui,
on s'est 1 giga gray. Donc, vous avez de la nausée, vous êtes de l'asthénie, donc vous êtes un peu moins fort. Vous allez avoir un peu d'immunodépression, mais voilà, le plus grave est passé.
Et le hamster.
Le hamster, il va avoir le cancer, je pense.
Non, dis pas ça.
Mais c'est pas le problème, puisque
sa probabilité de l'avoir est plus élevée, mais il peut ne pas l'avoir. On n'est pas égaux du tout. Hein.
Merci. Voilà. C'est très gentil.
Mais plus grave que le hamster, comme vous pouvez le voir, l'électronique ne fonctionne plus.
Il suffit
plus.
De tout rebooter. On reboot tous les ordinateurs, tous les calculs.
Vas-y, tu t'en occupes.
Ouais, je m'en occupe.
Il a la soluce.
Il est solide.
65 sur 80, ça passe.
Génial.
Vous rebootez et ça se rallume. Est-ce que vous pouvez rallumer ? Donc ça devait être le gros événement, mais je vois que
on a le cheat code.
Vous avez le cheat code, effectivement. Par contre, alors, tout revient. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ?
Il faut signaler peut-être ça quand même au sol, non ?
Donc tu veux appeler le Eurocom ?
Bah ouais, qu'on a eu une énorme anomalie, faire le check.
On appelle l'Eurocom. Vas-y, on vous met en relation.
Eurocom, j'écoute.
Vas-y, Pibi.
On vient de subir une tempête solaire, on a dû s'isoler et on a perdu les systèmes. On a rebooté, on voulait juste faire un scan du vaisseau pour savoir si on avait perdu quelques systèmes. Et quelles données vous avez en...
Il faut improviser, Grégory. Je te laisse confiance. On n'a pas prévu ce scénario.
La télémesure arrive, donc les experts sont en train de l'analyser.
Très bien.
Pour l'instant, tout est vert. On me signale peut-être des capteurs de température un peu... avec des données un peu bizarres.
Il a raison, vous commencez à avoir chaud. Vous avez un petit peu chaud, là dans vos combinaisons.
Sinon, les prédictions de bouffées de radiation suivante, est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'on aura à nouveau une giclée de protons là, qui arrive ou on a passé plus
loin ? La question est passée et j'ai les experts côté support vie qui me demandent si vous confirmez l'élévation de température.
Il fait vraiment chaud.
Ah, il fait très chaud là.
On confirme l'élévation de température.
Là, il fait bien très chaud, là. 39 degrés.
On a extrêmement chaud même.
Des experts préconisent de regarder si tout va bien au niveau de la centrale qui contrôle le bon état des capteurs.
Bon. Est-ce que quelqu'un veut s'en occuper ?
Oui, allez, tu cherches sur l'écran.
J'ai un retour des experts sur la radiation. Apparemment, vous avez essuyé le plus gros.
Okay. Ah, super.
Ok, très bien.
Allez, alors, on vérifie que c'est un défaut capteur et pas...
Ok, je vérifie alors.
De régulation.
91, c'est pour toi, en fait, cette chaleur, c'est juste une impression, en fait, il n'y a pas de problème de capteur. Enfin, il n'y a pas de problème de climatisation.
Ah, c'est les radiations qui nous font ressentir.
Oui, c'est ça, vous avez chaud et en fait, comment ça s'appelle c'est juste en fait les capteurs qui disent qu'il fait plus chaud dans la navette.
Oui, mais attends, 91, je suis au-dessus de tous mes...
Oui, mais je te réponds ça.
Ouais,
ok. C'est ce que t'as ressenti.
Oui, d'accord, c'est moi ce que j'ai ressenti.
Voilà.
Ouais.
Vous faites quelque chose en
particulier ? Tout va bien.
Bah là, en fait, il fait 43 degrés quand même.
Ouais. Ah, ça monte.
Bah, le capteur dit 43 degrés et vous transpirez, vous savez, chaud.
Est-ce qu'on n'a pas un moyen de refroidir manuellement le...
Si, on peut aller vers l'override et manuellement faire les bypass des valves et tout pour...
Tu veux intervenir sur l'électronique ou pas ?
Et on se met dans une orientation.
Donc
faut pas prévenir Capcom qu'on va faire ça avant, parce qu'ils vont trouver pas ça bizarre que les...
Non, on leur demande...
Grégory, question !
On leur demande la meilleure orientation.
Oh, comme j'écoute.
Quelle orientation vous nous suggérez pour subir le moins de rayonnement qui nous font chauffer dans la capsule ? Je pense que...
Alors, les experts trajectographie préconisent de pointer plutôt le bouclier vers le soleil.
Ok. Bon, donc j'y vais.
Donc, sans problème, pas la peine, tu orientes le bouclier de la navette vers le soleil. Donc, en fait, une navette,
notre fusée, elle va
dans l'espace, mais on peut la changer. Mais comme elle est lancée par inertie, elle ne bouge pas.
Mais en fait, on l'oriente vers le vide spatial noir, ouais. Et ça va nous froidir.
Alors, le problème... c'est qu'il fait de plus en plus chaud. Il fait 44 degrés.
Parfois, il faut double check.
Mais qu'est-ce qui se passe
là, Donc, on coupe la clim.
Alors...
On se laisse... on coupe le système de circulation de l'air et de la régulation thermique pour juste refroidir avec l'exposition.
Et alors, Eugénie regarde la clim.
Et on éteint le maximum d'appareils électriques.
La clim ne fonctionne pas. Alors, elle est déjà coupée.
Sentant qu'il va se passer quelque chose d'important, je lance la caméra.
D'accord. En fait, voilà. la clim est déjà coupée. La clim est déjà coupée.
Aïe, aïe.
Ah bah c'est...
Donc on...
Moi j'ai fait mon diagnostic.
On va l'activer,
on était du le backup. Il y a toujours des backups.
Ouais, c'est
le
double système.
Il y a d'autres cracks en technique à part Eugénie, non?
Ouais, moi je vous filme.
Tu vas rater, oui.
Alors Eugénie, tu peux activer le backup.
Moi j'aimerais bien qu'on double check la centrale quand même.
50 degrés.
Ouais, là, qu'on fasse un truc.
Je peux plus rien faire, moi, vu que...
Bah, en tout cas, tu te dis que si ça augmente, tu vas commencer à t'évanouir. Qu'est-ce que tu as fait? Pour l'instant, ce que tu m'as dit, c'est je regarde les capteurs. Je t'ai dit, les capteurs étaient effectivement cassés. Ensuite, tu m'as dit, je regarde la clim et je veux la couper. Et je te dis, elle est déjà coupée.
Qu'est-ce que tu proposes de provoquer volontairement une petite dépressurisation?
On peut faire ça?
Parce que ça va, par effet de détente, ça va refroidir. Et on a suffisamment de backup d'oxygène, etc. pour repressuriser après.
C'est une super idée.
Est-ce que ça va régler le problème juste temporairement ou...
Oui, mais au moins, ça nous sauve, quoi. Parce que
50 degrés... Okay.
Et on prévient le Cadmos, on fait ça.
Il faut qu'on ait tous remis nos combinaisons.
Grégory, on a une question. Eurocom, c'est parti. Alors.
Eurocom, j'écoute.
Non, mais tu ris, là, mais tu sais que...
Ici,
là, il fait chaud. Hein. Il fait chaud, donc on n'arrive pas à redémarrer la clim. Et donc, ce qu'on discutait, c'est éventuellement de créer... momentanément une dépressurisation relative qui ne met pas en danger nos vies par rapport à la baisse de pression, mais qui va nous donner un certain délai de refroidissement de l'air de la cabine, le temps qu'on corrige.
Copie. Et les experts préconisent de regarder le contrôleur d'état.
Ok.
Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas du tout quel est ce scénario. Donc, on ouvre la porte.
Non, mais ça, c'est, je veux dire... En thermodynamique, quand vous créez une détente,
oui, ça
refroidit.
Ça, je comprends, mais je ne comprends pas comment on met de l'air
on peut ouvrir des valves. On peut ouvrir une valve qui fait clair dans notre scaphandre de sortie dans l'espace.
Oui.
Quand on a une panne totale du système de régulation thermique, on crée volontairement une fuite.
D'accord, donc on crée une petite fuite. On va dire que ce plan a 90% de chances de marcher.
Ça ne peut pas nous faire changer de trajectoire, du coup, si on éjecte, de l'air comme ça?
Non, mais
attention. C'est pas grave, voilà, on a...
Le vaisseau est tombé en ruine.
Mais c'est ça.
On sent qu'on est en situation de danger.
C'est parfait. Alors, 90% de chance de marcher. Le
système de contrôle d'attitude compensera.
Ok.
53,
à l'aise.
Tout d'un coup, effectivement, il fait plus frais. Voilà, il laisse retomber à 38.
Et pendant ce temps, on applique la procédure proposée par
contrôleur
le centre de contrôle.
Qui sont toi qui t'en occupes?
Ouais.
Alors, fais-moi un jet d'électronique, tu dois avoir.
Non, ouais, j'ai 80.
80,
33.
33, tu t'aperçois que la clim ne marche pas.
Bah, on le savait.
Non, elle s'aperçoit que le contrôleur d'état
oui.
est dans un état qui ne pilote plus la clim.
D'accord.
Donc, elle réinitialise,
la clim
elle reprogramme le contrôleur
d'état. En tout cas, la clim semble cassée.
Oui,
ok, on peut la réparer ou pas?
Bah, il faut faire un jet d'électronique encore.
Ah, ça serait bien.
Il fait 42.
Il me filme, lui.
Non, puis il y a Gigi le hamster, là, il souffle. Hein. Il souffle très fort.
Il souffle très fort.
16.
Oh, mais c'est non, trop mais, bien, non, ça
effectivement, vous voyez votre amie à l'œuvre, grande constructrice de robots. La clim marche et l'air frais revient.
Ah,
le hamster, il va mieux.
Bravo, R2 génie.
Est-ce que tu veux faire un jet d'endurance pour ton hamster? Il a 50% de chance de réussir. D'avoir
arrête, je ne peux pas faire ça, moi, bah,
moins de 50%, il a survécu.
Non, mais déjà, il va avoir le cancer.
Non, parce qu'on lui a absorbé, on lui a fait absorber un peu d'iode et puis...
voilà.
Tiens, c'est vraiment de l'iode bien.
Mais
tu l'enterreras sur la Lune, sinon. Vas-y.
Il rejoindra les cendres de Pont.
Vas-y, pour ton hamster.
82, le hamster est mort des radiations.
Oh, y a
c'est la surchaleur, ben, c'est normal, 50 degrés.
Ouais, qui a pris un peu cher. J'espère que mon bonsaï va bien. Ouais.
Mais toutes ces aventures ne sont pas terminées. La Lune apparaît immense sur vos écrans. Votre trajectoire s'oriente vers le pôle sud de l'astre, où vous rejoindrez la trajectoire de Gateway. Alors j'en profite pour dire que Gateway, donc cette espèce de ISS qui est autour de la Lune, elle ne fait pas ça. Elle fait vraiment
elle fait un 8,
truc hyper presque chaotique, j'ai envie de dire. Donc c'est très étrange. Mais vous allez arriver. Normalement tout se passe à distance, c'est contrôlé, c'est des trajectoires déjà prévues. Mais la vitesse est bonne. Mais toi tu as ton sixième sens, ton expérience qui te parle, t'as l'impression qu'on n'est pas aligné avec Gateway.
Oui, parce que d'après le simulateur, c'est pas une situation de position relative normale.
Exactement. Donc qu'est-ce que tu fais par rapport à ça ?
Alors, j'appelle le centre de contrôle.
Grégory ?
Alors, comme j'écoute.
Grégory, oui. Il est au fond.
Vas-y, Grégory, dis-nous.
Grégory, ici, Orion. Voilà, nous sommes apparemment sur une trajectoire qui n'est pas nominale pour l'approche finale vers le Gateway. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est nous, si c'est le Gateway et comment en corriger ?
Copie. D'après l'équipe Orbito, tout est vert. Vous êtes sur la bonne trajectoire.
D'accord, donc c'est nos capteurs qui nous donnent une fausse indication, qui me font penser qu'on n'est pas sur...
C'est pas vraiment les capteurs, intuition.
Oui, mon intuition.
Alors, intuition versus ce qui se passe
les
au
facts.
Sol.
Ah, oui. Donc, je propose que nous procédions à plusieurs vérifications indépendantes par différents capteurs radars pour confirmer soit mon intuition, soit celle du sol qui peut avoir... tort, en fait, qui peut avoir une information qui n'est pas représentative de la réalité.
Donc la question, c'est, on va vérifier les capteurs, c'est ça ?
Oui.
Donc je te laisse faire un jet d'électronique, Eugénie.
Donc radar, sensor stellaire, etc.
99, les capteurs fonctionnent parfaitement.
Oh mon Dieu.
Dans ce cas-là, on... Je m'auto-convainc que...
Ah, elle est catégorique. Hein.
Ah là, c'est sûr, là, ça fait mal.
Elle a même vérifié le pilotage automatique. Tout va bien. Ouais. Pour Rocom, tout va bien. Donc, vous approchez de Gateway, donc qui se détache du fond gris de la Lune. Une station allongée, composée de modules connectés, de panneaux solaires, fruit de la collaboration entre l'ESA et la NASA. Et vous passez à grande vitesse à côté de la... Et vous la dépassez. Vous ne l'avez pas du tout...
C'est pas possible.
Vous avez raté la...
Non, on a fait toutes les portes d'approche à bonne vitesse.
Voilà. Est-ce que vous êtes angoissé ? Ça va ?
On est sur une orbite, on va la re-rencontrer ?
Oui.
On peut retenter une autre...
On a droit à une deuxième tentative.
Alors, le problème, Eurocom vous le dit pas, c'est que vous allez passer derrière la Lune, donc vous allez être séparés, coupés de la Terre.
Ouais. Aïe, aïe, aïe.
La station est derrière vous. Qu'est-ce que vous faites ?
On interroge nos ordinateurs, et c'est R2Génie qui s'en occupe, pour calculer les possibilités de rejoindre le Gateway à l'orbite suivante autour de la Lune, de notre vaisseau. Quelles sont nos options pour rejoindre le Gateway ?
Alors ça, il y a un astrophysicien à bord qui peut faire les calculs, s'il veut. Est-ce que tu veux le faire ?
Oui.
Alors vas-y, lance les dés. Tu as 80 en astrophysique.
Ouais.
Donc il sort son ordinateur, il commence à faire des calculs et
25.
Tu calcules une trajectoire parfaite pour le faire. Est-ce que tu veux la programmer ou la... Est-ce que tu veux qu'on la programme ou est-ce que tu veux que tu le fasses au pilotage, à la main ?
C'est un sacré pilote quand même.
Oui,
ouais, mais tu es une excellente informaticienne. Mm.
Je propose qu'on fasse faire par l'ordinateur tous les calculs de ce qu'il faudrait faire manuellement. Moi, je le fais manuellement, mais je compare avec ce que l'ordinateur ferait à ma place.
OK.
L'avantage de le faire manuellement, c'est qu'à tout moment, si on a un problème... Je peux réagir tout de suite.
D'accord. Alors, je décide d'une règle dans ma tête et je te laisse lancer les dés et je te dis pas le résultat. OK.
11.
Alors, ton intuition et ton feeling, tes calculs et ton expérience de pilote montrent un résultat différent de sa programmation. Il faut choisir si vous préférez le programme et les capteurs ou l'expérience humaine.
On a confiance en vous.
Ouais. J'ai fait un score super faible.
Tant que j'ai...
C'est pas ça. Ouais.
Je propose, tant que j'ai visuel, je le fais à la main.
Oui.
Parce que c'est...
Moi, je fais confiance en vous.
Le visuel, okay. C'est... Mais dès que je perds le visuel, on passe en mode pilote automatique qui prend la suite. Et je reprends en visuel.
Alors, en tout cas, vous sortez de l'autre côté de l'orbite lunaire. Vous êtes à nouveau en contact avec la Terre si vous le souhaitez. Vous pouvez faire une petite communication avant d'aborder la station.
Oui.
Est-ce que vous voulez faire
oui.
ça ? Bon, Grégory, à nouveau.
Okay.
Alors, je vous laisse okay. parler. Hein.
Bon, Grégory, on a fait un calcul d'orbitographie pendant notre passage derrière la Lune. On peut rejoindre le Gateway. De ce que je vois par mon viseur optique, visuellement à travers le pare-brise, je sens ce que je peux faire manuellement. Ce n'est pas tout à fait en accord avec ce que prédit l'ordinateur. Je propose de continuer en manuel comme je me suis entraîné dans le simulateur. Et si tu me confirmes que c'est OK pour la reprise en main manuelle comme on l'a fait à l'entraînement, eh bien, on procède comme ça. Mais l'ordinateur reste là et on regardera comment il converge ou diverge par rapport à mes actions.
Copie de notre côté et le directeur de vol vous donne l'autorisation de faire ça.
Oh, c'est bon. Très bien. Donc, ce sera pilote, c'est ça ? Est-ce que vous, l'équipage, vous êtes d'accord ou pas ?
Je suis d'accord. Eurocom, dites à mes comptables et à mes avocats que je les aime.
Et à Vénier.
Alors.
Moi, je vais filmer tout ça parce que c'est beaucoup trop épique. Quoi. J'ai l'impression d'être dans Interstellar.
Le React.
Bon, je vais quand même demander à Art de Génie de préparer une limite rouge par l'ordinateur. Ici, si on l'atteint, il faut remettre en question mon pilotage manuel.
D'accord. Donc,
Salut à tous, on va bientôt s'amarrer à la station. Malheureusement, on n'est pas sûr, hein, on est en manuel.
Laisse François travailler, bordel.
Allez, François, on est avec toi.
Courage, François.
Alors, pilote, tu as 80. Non, tu as 70.
En pilotage
70 en pilotage. C'est parti, il faut faire moins de 70. C'est un 58 et vous alignez votre vitesse sur celle de Gateway, votre orientation sur celle de Gateway. Et enfin, sas contre sas, vous êtes amarré à Gateway. Bravo.
Et ça, c'est grâce au module de service d'Orion qui est... vous savez, Orion, c'est comme Apollo, il y a la capsule conique et il y a le module de service avec la propulsion derrière. Et ça, c'est une fourniture entièrement européenne d'Orion. Dans le CNES, voilà, dans la France.
D'accord.
Vous entrez dans la station Gateway avec les applaudissements du centre de contrôle et un soulagement interplanétaire. Hein. Ici, c'est comme dans votre station sous le lac della Piazza. Ce sera votre chez-vous quelques jours, autant que vous le voudrez. Vous êtes en apesanteur dans la station. Vous avez droit deux fois par jour à une éclipse de Terre. Vous vous dites, quelle aventure formidable. C'est l'occasion, si vous souhaitez, de faire un point avec la Terre, si vous voulez demander des choses ou pas, non ? Vous n'avez pas de demande particulière ?
Rien qui me vient à l'esprit direct.
Rien. Est-ce qu'on peut observer, il y a une espèce de coupola, on peut observer la Lune et essayer de voir la station au sol de plus près ?
Alors, ça, on en parle dans deux minutes. Okay. Parce que vous venez d'arriver, en gros, c'est un peu... on vous félicite.
Non, mais ce serait bien que Patoche nous fasse une petite analyse biologique de la Gateway avant qu'on... rentre dedans quand même.
Ah oui.
Parce que ça n'a pas été inhabité pendant longtemps et avant qu'on respire l'air qu'il y a là-dedans.
Vas-y.
Mais c'est vrai, très juste. On pense à tout. Biologie donc.
Vas-y.
Ok. 60
et quelques.
64, j'ai 80.
Alors, 21,7% d'oxygène dans cette atmosphère. Mmh. Ça sent même pas le renfermer, ça sent les chambres stériles puisque aucun humain n'est passé dans cette station auparavant.
Très bien.
Il était convenu dans le protocole que tu fasses un petit reportage sur la mission jusqu'à présent. Est-ce que tu veux le faire ? Face cam, tu dis voilà, on est là, on en est là, il se passe ça.
Ouais.
Vas-y. Et tu peux prendre aussi le sentiment de chacun.
Je suis excité. Hein.
Tu peux te lever en mode selfie avec les...
Bien sûr.
Voilà, ouais. Ouais, super, je vais me rapprocher un peu là.
Alors on vient d'entrer dans la gateway, on a fait un test biologique juste avant donc pour vérifier l'air et qu'on pouvait bien respirer dedans. Quelles sont vos premières impressions du coup? On vient d'arriver autour de la Lune, c'est un voyage extraordinaire, non?
Oui, écoutez, c'est ça. Il y a de l'oxygène, pas de parasites, pas de journalistes. Pour l'instant, tout se passe bien.
C'est une merveille, j'en reviens pas d'être arrivée à ce stade-là. En plus, on a failli mourir juste avant. Merci François, heureusement que vous étiez là.
Tout est go, donc on va y aller sur la Lune.
Parfait. Je vous dis ça, mais... comment dire? Attends, je vérifie. Les astronautes font un rapport. Eurocom ne vous le dit pas. Mais peut-être que votre module Orion a souffert un petit peu de l'extérieur. Est-ce que vous voulez tenter une sortie extravéhiculaire pour vérifier s'il y a des dégâts? Ou est-ce que vous voulez procéder à la suite de la mission?
Je pense qu'on peut regarder quand même, non?
Je pense qu'on peut envoyer le petit robot...
Un petit check, quoi.
Ouais.
Alors, on peut envoyer un robot. Où il y a deux... Alors, dans Gateway, il y a deux combinaisons de sorties extravéhiculaires. Il y a également, je ne vous l'ai pas dit, un HLS, c'est ça? C'est un module qui permet de descendre sur la Lune. Voilà. Donc, votre objectif... vous pouvez rester quelques jours. Et après, vous rentrez dans ce module qui est un autre module, c'est plus votre fusée Orion. Oui. Et vous descendez sur la Lune. Est-ce que vous voulez, entre-temps, essayer de réparer la fusée?
Non, mais Orion, moi, je propose qu'on l'inspecte avec les moyens robotiques qu'on a. Mm-hmm. On ne va pas consommer de l'oxygène, le risque d'abîmer un scaphandre, alors que notre mission principale, c'est d'aller à la surface.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que tu veux piloter un petit robot d'inspection?
Allez, c'est parti.
Alors, tu as un petit joystick et vas-y, fais un jet de
pilotage de robot.
Pilotage de robot, c'est parti. 54.
54. Pardon.
Tu peux lancer un dé aussi à 10 faces, s'il te plaît.
Ouais, juste le...
Un seul.
C'est
un des deux, soit celui que tu veux. 3. Alors, tu fais l'inspection, qui prend des photos de tout pour envoyer ça à la Terre. Et en fait, grâce à vos réactions très rapides et votre pilotage mesuré, eh bien, il y aura des réparations, mais vous avez une Orion qui peut tout à fait revenir sur la Terre en cas de besoin.
D'accord.
Donc, vous êtes rassuré. Et on va dire, vous ne perdez pas de points de santé mentale parce que vous êtes sûr de... Il n'y aura pas besoin d'une mission de secours pour vous secourir.
Voilà. Bravo le robot.
Bravo le robot, bravo Eugénie.
Bravo la conceptrice du robot.
Oui. Non, c'est bon.
Non, c'est bon.
Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre place dans le HLS, qui est le Human Lander System, qui va vous amener près de la base Aurora. Il faut descendre à un moment précis. Est-ce que vous voulez y aller ou est-ce que vous avez autre chose à faire?
Moi, je ferais bien un room tour quand même de la LOPG.
C'est quoi l'OPG?
La Lunar Outpost Gateway. Donc, je me balade juste et je prends en vidéo toute la visite de la station avant de rentrer dans le HLS. Quoi.
Très bien. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses? Non.
Surtout l'inventaire de tout ce qu'on doit amener à la surface pour pas une fois être séparé.
Alors, le HLS est déjà prêt.
Tout est prêt.
Tout est prêt. Ça a été une mission qui était... En fait, vous êtes les premiers humains à venir là. Si on n'avait pas eu l'absence de contact avec la base, ça ferait longtemps qu'il y aurait eu des humains. Mais tout est prêt pour... tout est dans le HLS.
Mais bien le CD, il ne faut pas oublier le drapeau de...
Ah oui.
Oui, mais moi, j'aurais bien quelques bouteilles d'oxygène en redondance, enfin un peu de redondance, parce qu'on va vers une base qui n'est pas en stade nominal. Donc, si on a besoin de trucs en plus, chargeons l'atterrisseur d'un peu plus de ressources.
Oui, normalement, dans le HLS, en fait, le HLS a beaucoup d'oxygène. Il y a de l'oxygène pour plusieurs jours. Ça peut être une base d'appoint inconfortable, mais voilà.
Donc, il y a deux scaphandres dans le Gateway.
Il y a deux scaphandres aussi dans le HLS.
Alors, je propose qu'on prenne un des scaphandres du Gateway pour l'amener avec nous.
Okay. J'ai une question.
Parce qu'on descend tous les...
Non, mais en fait, vous avez des combinaisons pour vous tous. Excusez-moi. Okay. Vous pouvez marcher à quatre sur la Lune.
D'accord.
J'ai une question. Oui. La base lunaire Aurora, elle est où par rapport à nous, là?
Sous vos pieds. Enfin, en gros, vous êtes
c'est
dans la base.
C'est là où on va aller et c'est là où on doit regarder s'il y a quelque chose. Ok, très bien.
Et donc...
Je le savais.
Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, on est prêts.
Je pense que oui. Hein.
Oui, on est prêts.
Donc le HLS se détache de Gateway, commence sa lente descente vers la Lune. Voyez au-dessus de vous l'immense astre bouger de moins en moins vite à mesure que vous alliez sur sa rotation. Au sol, vous apercevez le point minuscule réfléchissant les rayons rasants du soleil de la base, parce qu'on est au pôle sud. Il y a Eurocom qui prend contact avec vous. Je laisse Grégory vous dire ce qui se passe.
Équipage de Eurocom.
Bonjour Grégory.
Bonjour, oui.
Bonjour.
Bonjour à tous. Le désamarrage s'est plutôt bien passé, mais a priori, ce que vous avez chargé a un peu déséquilibré le centre de masse. Et il y a un petit décalage sur la trajectoire.
Bon, bah je
le directeur de vol préconise le pilote de reprendre la main.
Une reprise à la main. Ok.
Alors, ce sera un jet et un peu compliqué parce que c'est pas un aéronef facile. Donc il faudra faire moins de 50.
Moins de 50 avec un seul dé.
Non, les deux. C'est un 73. Alors, la descente se fait lentement. Tu penses que tout se passe bien et... Je précise quand même que c'est peut-être rien, mais vous voyez... Alors, il y a un point, qui est votre point d'atterrissage, il y a un point qui est la base, et près du point d'atterrissage, mais un peu excentré, il y a un éclat métallique brillant qui est peut-être lié au problème de la base. En tout cas, vous le gardez en tête.
Okay.
Cela dit, l'atterrissage est un petit peu brusque parce que, en fait, vous arrivez dans un cratère, mais sur le bord d'un cratère. Alors, le HLS n'est pas... ne tombe pas sur le côté, mais vous êtes à 45 degrés dans le cratère. Voilà. Vous pouvez néanmoins sortir si vous le souhaitez. Voilà. Que faites-vous? Vous avez des combinaisons pour marcher sur la Lune. La base est seulement à 100 mètres à pied. Et l'éclat métallique, ouais, métallique. Est un petit peu loin, c'est-à-dire qu'il faut que vous y alliez. Si vous allez le voir, vous vous y alliez et vous reveniez au HLS avant de repartir vers la base.
Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on évalue à combien on est de la limite de basculer, puisqu'on est posé sur un plan incliné. Avant de décharger.
Alors,
de...
c'est assez stable, c'est-à-dire c'est un petit peu incliné.
Mais c'est
ça va être compliqué pour décoller. D'accord. Mais ça ne va pas tomber entre temps, sauf s'il y a une météorite qui tombe dessus.
D'accord. Ben, on sort, c'est le job.
Oui.
Qui sort en premier et qui dit la phrase
Ah oui, il faut que je regarde mon concours. Est-ce qu'on m'a donné des réponses
Je pense que c'est le géologue qui sort en premier.
Alors, on te propose de sortir en premier. Est-ce que tu as une phrase à dire sur la première passe sur la Lune?
Qui doit sortir en premier?
Toi et
moi
enfin, en tout cas, on te propose.
Non, mais je proposais le géologue, moi.
Le géologue,
c'est le géologue. Ah, bah oui, c'est moi, en fait.
Sinon,
oui.
Tu peux.
Moi, c'est bio.
Ah oui, bio. Planétologue.
Il parlait de patoche, bien sûr.
Non.
Alors, est-ce que le chat peut suggérer une idée de première phrase à dire? Je vais te les dire et tu choisiras. C'est toi qui descends en premier?
Parce que tu vas savoir évaluer la consistance du sol.
Ben oui, je suis planétologue.
Non, mais attendez, la personne qui va marcher sur la Lune en premier, c'est un peu un moment historique. C'est-à-dire parce que vous allez habiter sur la Lune. C'est quand même aussi un symbole.
Merde, j'ai glissé.
Mais j'ai pas la carrure pour faire ça.
Tu n'as pas envie de le faire?
Bah, disons que. Enfin, je veux dire, c'est la première personne qui marche dessus. Je pense que moi, Eugénie, je me sens pas de le faire.
Alors, elle ne veut pas descendre en premier. Est-ce que toi, l'influenceur, tu veux le faire?
Il n'est pas là pour ça. Est-ce que c'est le message qu'on veut envoyer?
Là, je suis pris vraiment par mon énorme syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite, moi, de poser le pied sur la Lune?
Est-ce que vous, l'un de vous deux veut descendre sur la Lune en premier?
Je pense qu'il faut... On va faire en sorte qu'on se pose tous les quatre ensemble.
Est-ce qu'on peut faire une accolade et
on tombe. C'est beau.
Alors, vous allez descendre tous les quatre ensemble. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Luigi.
Un bond de géant.
C'est un... Alors, je vous dis un peu ce qu'on vous propose. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. mais c'est génial ici.
C'est génial ici.
Géronimo, tiens, ce n'est pas rond. La terre est plate. Luigi, citoyen, bonjour et bienvenue sur la Lune. Choqué de ouf. Voilà, bon, attention à la marche. Voilà, je vous laisse. C'est quoi la phrase? Vous pouvez dire une phrase chacun.
C'est écrit dans le plan Artemis que le premier à reposer le pied, c'est une femme.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça que ça s'appelle Artemis, qui est la sœur jumelle d'Apollon.
Et la déesse de la Lune.
En plus. Alors, la phrase.
Ah, je sais pas, faut que ça soit lourd de sens, mais léger en même temps, j'imagine.
Waouh, mais c'est génial ici.
C'est le nouveau berceau de l'humanité. Comment on pourrait dire Pour une fois, l'humanité sort de son berceau.
Vous dites ça?
Allez.
C'est bon.
Et pourquoi vous pas. Descendez sur la Lune, vous marchez, vous atterrissez tous les quatre ensemble sur le sol dur et cendreux de la Lune, en évitant de soulever des nuages de poussière. Le silence est total.
Et
vous
tout entendez... ça, tu le filmes, hein?
Ah bah oui, là...
À peine les vibrations des autres astronautes à travers le sol. Loin sur l'horizon, la Terre. Tout autour de vous, la roche grise, le noir du cosmos percé d'étoiles. Au loin, à 200 mètres, excusez-moi, vous voyez la base Aurora inerte. Tu veux faire... Tu veux dire, ouais, on est sur la Lune
Bah oui, là, c'est historique.
Et voilà.
Bah, on y est, oui, effectivement, mais...
c'est... C'est historique, on est sur la Lune, quelles sont vos premières impressions
Incroyable, j'en reviens pas, j'ai hâte d'aller voir ce bout métallique à l'autre bout de la
c'est
planète.
Beau.
C'est beau.
C'est beau, mais il n'y a pas beaucoup de bruit, quoi.
Il n'y a pas beaucoup. Très bien.
Premier mot de Buzz Aldrin, Magnificent Desolation.
Okay.
Alors, qu'est-ce que dans cette désolation magnifique, qu'est-ce que vous avez la base en face de vous, l'éclat métallique est à peu près par là-bas. Qu'est-ce que vous faites?